Alors, hier, vous l'avez tous vu, le marché américain est monté. Bah, forcément, quand tu as Nvidia qui prend 9% sur la séance, le S&P 500, il monte. Le Nasdaq, il monte. Et pendant que tout le monde montait, bah, 8 titres sur 10 se faisaient démonter. Enfin, je vous jure que je fais pas une blague, hein. Dans le Dow Jones, 80% des valeurs ont terminé en terrain négatif. Dans le S&P 500, c'est 2 valeurs sur 3. Et dans le Nasdaq, c'est 60% qui étaient en baisse. Le pire ratio. Hausse-baisse de toute l'année 2026, un jour d'une énorme hausse de la part de Nvidia. Alors on va se poser la vraie question ce matin. Pas est-ce que le marché monte? Ça, tout le monde peut le voir et tout le monde peut le lire sur son smartphone. Mais la vraie question, c'est quand un indice monte pendant que la quasi-totalité de ses composants baisse, est-ce qu'il est en train de vouloir nous dire quelque chose? À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer trois sociétés qui, elles aussi, à leur époque, pesaient plus lourd que tout le monde et je vais vous dire comment ça s'est fini pour les trois. Restez avec moi, bienvenue dans ce Morning Bull Live du vendredi 28 août 2026. Je suis bien sûr Thomas Veillet et aujourd'hui, on a une séance schizophrène, une action punie pour un centime, un banquier central qui déteste parler et qui doit monter sur scène quand même cet après-midi et une histoire de cacahuètes qui vous en dira plus sur l'économie américaine que tous les commentaires que vous entendrez aujourd'hui. C'est parti, générique!
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Bon, on va commencer par les chiffres parce qu'il y a quand même un espèce de calcul à faire. Et je dois dire que ce calcul, ce matin, il m'a quand même bien fait rire. Hier, le S&P 500 a donc pris 0,72%. Ça a l'air de rien, c'est pas énorme, mais 0,72% de hausse. Sauf que, rapporté en termes de capitalisation boursière, ça représente à peu près 480 milliards de dollars créés en une seule séance sur l'ensemble du S&P 500. Maintenant, vous prenez Nvidia, juste Nvidia toute seule. Nvidia, hier, elle a gagné 441 milliards de capitalisation en une seule journée. Là-dessus, vous ajoutez Salesforce qui a explosé de 22,6%, plus forte hausse de son histoire, et Salesforce qui ajoute 36,7 milliards de capitalisation. Faites l'addition avec moi, 441 plus 36,7, ça fait 477 sur 480. Ce qui veut dire que les 498 autres sociétés du S&P 500 ont collectivement, toutes ensemble, produit à peu près que dalle. Si vous voulez la preuve par neuf, il existe une version du S&P 500 où chaque société pèse le même poids que les autres. Ça s'appelle le S&P équipondéré. Là-dedans, Nvidia pèse exactement autant que n'importe quel fabricant de pâté pour chien. Et cette version-là, hier, elle a fini en baisse. Alors quand vous ouvrez votre écran ce matin et que vous voyez Wall Street termine en hausse, techniquement c'est vrai. Mais c'est pas aussi vrai que ça. Et maintenant alors, il y a un truc qui me chiffonne quand même. Vraiment, parce que pendant que les deux tiers du marché reculaient, il y a des gens qui ont trouvé que c'était le bon moment pour vendre de la volatilité encore et encore. Le VIX, l'indice de la peur, le prix de l'assurance sur le marché, le VIX a baissé encore de près de 5% hier et il est à 14,50. Autrement dit, c'est des niveaux qui frisent le coma ou la mort cérébrale. Le jour où la quasi-totalité de la cote se fait taper dessus, le prix de l'assurance incendie tombe à son plus bas de l'année. C'est un peu le détecteur de fumée qu'on a préféré débrancher parce qu'il siffle, il fait trop de bruit pendant qu'on est en train de cuire le rôti. Alors pourquoi tout ça? Bah, il y a deux explications possibles et je vous laisserai choisir celle que vous préférez. D'abord, peut-être que c'est délibéré et là il faut se demander qui a intérêt à ce que le stress ne se voit pas. Soit c'est purement mécanique. Les programmes automatiques achètent dès que le stress recule et le stress recule parce que les programmes achètent. C'est un serpent qui se mord la queue avec l'algorithme et au bout d'un moment, on tourne en rond très vite en ayant l'impression d'avancer. Bon, maintenant Nvidia, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Alors franchement, je ne vais pas vous refaire le match ici, il y a assez de vidéos qui ont été publiées cette semaine là-dessus. Vous les connaissez. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est autre chose. C'est la taille, la monstruosité de Nvidia. Nvidia pèse aujourd'hui 8,3% du S&P 500 à elle toute seule et 13,6% du Nasdaq 100. Alors je sais que vous allez me dire, oui, mais Thomas, c'est normal, c'est la meilleure boîte du monde, Jensen Huang est un dieu, c'est génial. D'accord, sauf qu'on a déjà vu ce film, trois fois en tout cas. Regardez AT&T en 1922, 12,7% de la cote américaine. Standard Oil en 1900, oui ça date un petit peu, d'accord, mais 9% quand même. General Motors en 1928, c'était 8% des indices. Trois sociétés et à chaque fois exactement le même discours. Le produit est trop bon, la position est imprenable, l'avenir leur appartient, personne, personne ne peut les rattraper, personne ne peut les dépasser. Alors comment ça s'est fini ? Standard Oil a été démantelé par la justice 11 ans après son top historique. AT&T a été également démantelé en 1984. Et General Motors, eux, ils ont fait faillite en 2009. 3 sur 3. Alors attention, hein, attention. On va encore dire que je suis bériche, mais je vous dis pas que Nvidia va faire faillite. Ce serait complètement ridicule. C'est probablement la société la plus rentable de l'histoire du capitalisme. Ce que je vous dis, c'est que dans l'histoire des marchés, être trop gros n'a jamais été une protection. Ça n'a jamais été une sécurité. C'est même souvent le moment où les gens commencent à regarder les choses un petit peu de plus près, voire de trop près. Ah oui, puis alors, pendant qu'on y est dans le côté positif de la chose, dernier chiffre, il y a un analyste qui vient de relever son objectif sur Nvidia à $515, ce qui donnerait à la société une valeur de 12 000 milliards de dollars. Rien que ça. Maintenant, on va passer à une autre histoire. Celle-ci, elle vous concerne également directement si vous investissez. Et ça concerne également l'intelligence artificielle. Marvel a publié hier soir tard. Alors Marvel, pour ceux qui ne suivent pas, c'est un des grands des semi-conducteurs. Rien à voir avec Spider-Man. Plus sur mesure et connectique pour les data centers d'intelligence artificielle, bien sûr. Un des chouchous du marché cette année 2026. Alors les chiffres, chiffre d'affaires 2,74 milliards en hausse de 37% sur un an. Au-dessus des attentes, bénéfice ajusté 94 cents, le consensus attendait 93, prévision pour le trimestre en cours au-dessus du consensus, et surtout, la direction relève ses objectifs annuels, 12 milliards de chiffre d'affaires cette année au lieu de 11,5 prévus, et 18 milliards l'an prochain au lieu de 16,5 prévus, une révision à la hausse d'1,5 milliard. Bon, donc tout est vert, tout est au-dessus, tout est mieux que prévu, résultat, bam ! Moins 7,5% hier soir after close. Et le plus beau, c'est la baisse. La baisse s'est creusée au fur et à mesure de la conférence téléphonique. Plus les dirigeants parlaient, plus le titre descendait. À un moment, t'as envie de leur dire d'arrêter de causer. Alors pourquoi ça ? Eh bien, deux raisons. Et les deux sont psychologiques. Pas fondamentales, pas comptables, juste psychologiques. Première raison, le titre avait déjà fait 184% depuis le mois de janvier. Il avait même quasiment triplé, avant même que les gars ouvrent la bouche hier soir. Donc, battre les attentes d'un centime quand le marché a déjà acheté 3 années de croissance à l'avance, c'est ramener le pain à 20h ce soir alors qu'on t'attendait à 9h du matin pour faire les tartines. Techniquement, t'as rapporté le pain, émotionnellement, tout le monde a déjà petit déjeuner, ils sont déjà passés à autre chose. Deuxième raison, et celle-là, elle est un petit peu plus cruelle, la semaine dernière, Google avait obtenu un varon lui permettant de prendre 12,2 milliards de participation dans Marvel. Le marché a hurlé au génie, le titre s'est envolé, partenariat historique, révolution, avenir radieux, blablabla, vous connaissez la chanson. Et hier, sur le call, il y a un analyste qui a posé la question au management de Marvel, la seule qui comptait finalement, il a dit « D'accord, mais concrètement, ça rapporte combien cette histoire avec Google et quand ?» Réponse de la direction, je résume, « Les revenus couverts par cet accord juste en 2028 sont déjà reflétés dans les prévisions qu'on vous a données. Le gros du truc arrivera en 2029. » Traduction pour ceux qui n'ont pas compris, vous avez déjà payé deux fois la même nouvelle et la deuxième livraison est prévue dans 3 ans. Ajoutez à ça une prévision de marge brute sous le consensus, encore à cause de la mémoire, toujours la mémoire, c'est le sujet l'été 2026, et vous avez la claque de 7,5% sur Marvel. Cela dit, soyons honnêtes, hein, les fondamentaux de Marvel sont bons, les chiffres n'ont pas déçu, c'est pas un problème d'entreprise, c'est un problème d'attente. Reste à trouver le bon point d'entrée pour revenir dedans. Mais retenez quand même encore une fois la leçon générale, parce qu'elle va servir encore probablement tout l'automne. Battre les attentes ne rapporte plus rien, c'est devenu le minimum syndical. Ce qui rapporte aujourd'hui, c'est de battre ce qu'on n'osait même pas imaginer dans nos rêves les plus fous. Et Marvel n'avait pas la munition pour nous faire rêver à la mode Nvidia hier soir. Bon, maintenant, le passé, c'est le passé. On va parler du vrai sujet de la journée. Cet après-midi, Kevin Warsh va monter sur scène à Jackson Hole. Premier grand discours de sa présidence de la Réserve fédérale. Oui, j'en ai parlé hier. J'en ai aussi parlé avant-hier et probablement lundi également. Eh ben, on recommence quand même aujourd'hui. Bah, c'est pas ma faute, hein. Si le marché a passé 3 jours à regarder le bilan d'une boîte qui fabrique des GPU, pendant que le vrai sujet macro attendait tranquillement son tour dans le Wyoming. Alors, l'équation Warsh est très simple, hein. Personne ne sait ce que ce type pense. Depuis son arrivée à la Fed au mois de mai, il a fait la parole rare, sa marque de fabrique. Il veut donner le minimum d'indications au marché et les laisser se débrouiller tout seul. C'est une position qui est intellectuellement défendable d'ailleurs, sauf que ça a une conséquence. Il y a un sondage qui est sorti cette semaine qui dit que 80% des économistes interrogés veulent qu'il détaille enfin sa lecture de l'économie. Et 45% pensent qu'il dira rien. Du coup, les mecs, ils vont devoir bosser. Et puis, alors, petit détail à pas négliger, le thème officiel du symposium cette année, c'est l'innovation financière. Donc, nous, on attend à que Warsh vienne nous parler de l'inflation. Et lui, il a parfaitement le droit de nous faire une conférence sur la blockchain ou sur les heures d'ouverture du Nasdaq. Alors, bonne chance pour interpréter ce qu'il va nous dire tout à l'heure, mais ça va être le grand écart. Sauf que, il n'a peut-être pas le luxe de rester vague, et voilà pourquoi. À la dernière réunion de la Fed, trois responsables de la Fed ont voté pour une hausse des taux de 25 points de base. Trois. Et il y en a une des trois qui est passée hier à la télé pour dire qu'il fallait vraiment agir maintenant, que ça devenait urgent. La prochaine réunion, c'est les 15 et 16 septembre. Et aujourd'hui, le marché donne 66% de chance au statu quo et pratiquement 100% de chance à une hausse d'ici le mois de décembre. Et puis, il y a un précédent qui hante tout le monde à propos de Jackson Hole, c'est 2022. Oui, parce que Jérôme Powell était monté sur scène, il avait fait un discours de 8 minutes, assez dur comme discours. Résultat, le S&P a perdu 3,4% ce jour-là et 9,92% dans les 30 jours qui ont suivi. On voit un peu les performances de ces événements sur les tableaux, c'est pas toujours les vacances. Voilà, en gros, vous comprenez que Warsh a un énorme pouvoir cet après-midi, dans un sens ou dans l'autre, ça, c'est à lui de voir. Petit détour par le marché obligataire comme d'habitude et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Hier, les taux n'ont pas bougé. 4,67 sur le 10 ans, 4,23 sur le 2 ans, complètement figé, malgré Nvidia, malgré tout. Le vrai sujet, c'est le 30 ans qui traite toujours autour des 5,20 et là, il y a une situation que je trouve assez extraordinaire. D'un côté, on a toujours le Trésor américain qui va racheter davantage d'obligations longues à partir de septembre pour faire baisser les taux. Et de l'autre côté, on a toujours la Fed qui réfléchit à les monter pour tuer l'inflation. Deux services du même pays, du même gouvernement, qui rament dans des directions opposées, avec le contribuable qui est bien sûr assis sur le chaise arrière. Ça, c'est de la coordination américaine. Et pendant qu'on sablait le champagne avec Nvidia, hier soir, il y a un chiffre qui est passé totalement inaperçu. C'est le déficit commercial américain sur les biens qui s'est creusé de 17,5% en un mois. En un mois, il est à 118,81 milliards alors qu'on attendait seulement 100. Les exportations reculent, les importations explosent. Après 18 mois de guerre commerciale menée au nom du rééquilibrage, les États-Unis affichent donc aujourd'hui un double déficit record, budgétaire et commercial. Warsh en parlera peut-être cet après-midi, ou pas, et on ne sait pas non plus ce que Trump en pense, mais je lui donne 72 heures pour nous faire un post sur le sujet. Autrement, aujourd'hui, ça fait exactement 6 mois que les premières frappes sont tombées sur l'Iran. 6 mois. Et le dossier a la vivacité actuellement d'un spaghetti trop cuit. Hier, le commandant du CENTCOM a posté une vidéo pour annoncer, je cite, que les mines étaient dégagées et que les voies maritimes internationales sont ouvertes. La dynamique s'installe, il a dit le monsieur. Formidable. Sauf qu'on a des données de suivi des navires et apparemment, il y a 5 bateaux qui sont passés alors que d'habitude, c'est 130. Donc 5 bateaux et on appelle ça une autoroute ouverte. Chez moi, ça s'appelle un petit chemin boueux. Pendant ce temps, Trump n'a plus aucune intention de revenir au protocole d'accord signé au mois de juin à Versailles. Celui qu'il avait paraffé en grande pompe devant les photographes et qui a tenu au moins 3 semaines. Et Téhéran, de son côté, explique maintenant que rouvrir le détroit dépend de la fin de la guerre à Gaza, du retrait israélien du Liban et de l'arrêt des frappes en Syrie. On est donc parti d'une négociation sur un couloir maritime et on est arrivé à un traité de paix régional complet. À ce rythme-là, la prochaine condition, ce sera la fin de la guerre en Ukraine et le transfert de Mbappé au club de foot de Téhéran. Résultat sur le baril, le Brent est remonté, 88,22, le WTI était 83. Alors ils sont quand même en baisse sur la semaine, parce qu'entre-temps, Washington est sur le point de mettre la main sur une partie des réserves vénézuéliennes et que Caracas envisagerait de quitter l'OPEP. Le pétrole ne sait plus s'il doit avoir peur du manque ou de l'excédent, et nous non plus. Et puis alors, je vous ai gardé une petite histoire pour la fin, parce que c'est vendredi que c'est bientôt le week-end, et elle résume assez bien ce qui se passe en moment sur les marchés. La lanterne rouge du S&P 500 hier, la pire performance de l'indice, c'est pas une banque, c'est pas une pétrolière, rien à voir avec l'Iran ou avec l'intelligence artificielle, c'est Hormel Food. Moins 10%. C'est une société agroalimentaire que personne connaît qui a massacré ses prévisions annuelles et le motif officiel, celui que la direction a donné aux analystes, c'est que la baisse des prix de la dinde crue et des apéritifs de marque distributeur impacte le résultat. Donc le même jour, sur le même indice, vous avez une société qui rajoute 441 milliards de dollars de valeur parce qu'elle a promis 70% de croissance dans un an et demi. Et de l'autre côté de l'indice, vous avez une autre qui s'effondre parce que les Américains achètent moins de cacahuètes premier prix. Les deux chiffres sont vrais, hein, les deux sont dans le même indice, mais un seul des deux décrit ce que les gens vivent réellement quand ils font leurs courses. Je voulais choisir lequel. Alors la prochaine fois qu'on vous explique doctement et sérieusement que la bourse est le reflet de l'économie, pensez quand même aux cacahuètes. Voilà, on se retrouve cet après-midi avec les yeux rivés sur le Wyoming et demain pour le Swiss Bliss. D'ici là, on saura si Kevin Warsh a réussi l'exploit de parler 20 minutes sans rien dire, auquel cas il aura quand même appris quelque chose au marché, c'est qu'il veut vraiment rien nous dire. Maintenant, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez et vous commentez. Et puis nous, on se voit demain pour parler de la Suisse avec notre habituel Swiss Bliss du samedi. Passez une très belle journée. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.